Par une anecdote, le nouveau DRH qui venait d'arriver proposait justement de réfléchir à un nouveau modèle managérial. Ça, c'est l'actualité qui veut ça. Le directeur général et fondateur et largement propriétaire donc de cette entreprise s'est tourné vers le DRH et il lui a dit le modèle managérial ici, c'est moi. Alors, je suis pas certain que ce soit exactement le message que nous allons partager avec Guillaume et Céline, mais j'ai trouvé que l'anecdote méritait d'être partagée. Alors, on va rentrer aujourd'hui sur un peu le contenu de ce que sont les modèles managériels, mais surtout, on va se focaliser sur le pourquoi ça a été. Pourquoi ce travail sur le comment, qu'est-ce qui est spécifique. Et on a voulu avoir deux exemples vraiment différents, avec d'une part l'exercice plus que formel qui a été mené à la SNCF, et Céline nous en parlera, mais aussi dans un groupe de services complètement différent. Alors dans les deux cas, on pourrait dire que c'est du service, mais les deux entreprises sont quand même vraiment très différentes. Donc peut-être quelques mots, on verra après avec Guillaume et pour en parler, mais. Un exercice à peu près sur la même période a été mené, donc récemment aussi, chez Harmonia.
D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup, Philippe, de cette invitation pour parler d'un sujet que j'adore et que je ne cesse de porter. Donc, c'est un grand, grand plaisir pour moi. Alors, mon parcours à la SNCF est assez hétéroclite. J'ai eu une vie avant la SNCF, donc ça, je ne vais pas en parler parce qu'on va se concentrer sur le groupe SNCF. J'ai commencé plutôt dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui affaires publiques. Je faisais vraiment l'interface entre le monde extérieur et la machinerie SNCF pour expliquer, vendre, proposer et puis modifier les services qu'on pouvait proposer. Donc j'étais en relation avec les différents services de l'État, avec les ministères, les cabinets et tous les organismes extérieurs. Et ça, j'ai commencé à ce qu'on appelait dans une direction qui s'appelait Grande Ligne. Donc c'est l'équivalent de tous les transports longue distance, donc TGV, Intercité, etc., etc. J'ai fait la même chose au niveau direction générale. Et ensuite, je me suis plongée, à la demande du président Louis Gallois à l'époque, dans la gestion de crise, gestion et communication de crise pendant 5 ans au niveau national. Donc ça, c'est une activité très prenante qui peut débouler à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Et comme j'habitais pas très loin de la salle de crise, je rendais service en m'y pointant très tôt et très rapidement. Et puis, là encore, nouveau changement, je suis devenue secrétaire générale et DRH d'une des branches de la SNCF, c'était SNCF Proximité qui avait à développer en lien avec les autorités organisatrices des transports tous les transports sous convention, c'est-à-dire Transilien, les TER, etc., etc. C'était près de 55 000 personnes concernées par ce type d'activité. Et après ce rôle, on va dire, de siège transverse, fonctionnel, comme on dit, je suis partie plutôt dans des activités extrêmement opérationnelles, puisque j'ai dirigé toute la région de Paris-Nord pour Transilien, c'est-à-dire les fameuses lignes B, K, D Nord, H. Et donc avec les ateliers matériels, les conducteurs, etc., etc. Donc là, c'est pareil, c'est pas mal de crises quand même, évidemment, et beaucoup d'opérationnels. Donc c'est vraiment de l'exploitation ferroviaire au sens strict du terme. Et ensuite, j'ai été nommée directrice de la sûreté du groupe jusqu'en 2020, date à laquelle le nouveau président Jean-Pierre Farandou m'a demandé de le rejoindre dans le poste que j'occupe, donc très lié au management, puisque le poste s'appelle Performance Managériale et Leadership. Voilà en deux mots.
Merci Céline, merci.
Alors, je ne suis pas DRH, hein, je ne fais pas DRH, même si je traite quand même de la ressource humaine, parce que je traite des hommes et des femmes, mais je ne suis pas du tout DRH. D'ailleurs, il y a un DRH groupe bien connu, François Noguet.
Pourquoi s'être lancé dans un travail sur le modèle managérial? Dans quel contexte? Pourquoi maintenant? Enfin, pourquoi à ce moment précis, au moment où vous l'avez fait? Philippe,
Alors,
dans l'attente de quel bénéfice?
la démarche a été lancée début 2020. Et effectivement, le pourquoi s'explique par le contexte, en fait. Alors, je vais faire un tout petit peu d'histoire, je vais essayer d'être rapide, mais c'est important de situer le contexte, justement. Il y a eu une grande réforme ferroviaire, il y en a eu plusieurs, et vous avez pu les vivre peut-être au rythme des grèves. Mais en tout cas, la dernière date de 2018, c'est ce qu'on appelait le pacte ferroviaire. Pacte ferroviaire qui voulait dire la création d'un groupe unifié, je vais revenir sur qu'est-ce que ce groupe, la fin du statut à l'embauche à partir du 1er janvier 2020, ce qui est très important pour la SNCF, vous imaginez bien, l'ouverture à la concurrence non plus comme une idée, mais comme une réalité avec un calendrier d'application, et puis un engagement de la part de l'entreprise de revenir à l'équilibre, d'avoir un CFL positif, ce qu'on est en passe de réussir cette année conformément à l'engagement. Et ça venait après la reprise de la dette de la SNCF par l'État, qui était liée en fait aux investissements que l'État nous avait demandés pour la création de lignes ferroviaires. Alors le groupe aujourd'hui, mis en place le 1er janvier 2020, donc c'est important parce que c'est à partir de là que le président, qui a été nommé fin 2019, mais a pris vraiment ses fonctions dans le cadre de ce nouveau groupe, réunit des sociétés anonymes. On est toujours entreprise publique, bien évidemment, mais avant, nous étions dans un univers d'EPIC, donc d'établissements publics. Il y en avait trois. Et là, maintenant, nous sommes dans un monde de sociétés anonymes. Donc, c'est du droit privé en quelque sorte, même si c'est une entreprise nationale, l'actionnaire unique de SNCF étant l'État, comme vous le savez. Donc, on trouve une holding SNCF, des filiales de premier rang. Alors, il y en a deux qui ne sont pas très ferroviaires, en tout cas pas en France. Géodis qui fait du forwarding de la logistique avec un chiffre d'affaires à 70% à l'international. Keolis, qui est plus connu qui est connu en France, mais surtout pour transport urbain, interurbain par route, mais qui fait son chiffre d'affaires à hauteur de 60% à l'international, qui fait du train, du tramway, etc., etc. du tram-train. Et puis, des sociétés plus, comment dire, très concrètement ferroviaires, SNCF Voyageurs, comme le nom l'indique, fait du transport de voyageurs, donc on y trouve TGV, Intercité, TER, Transilien, etc., etc. SNCF Réseau, qui gère tout ce qui est infrastructure, la gestion des circulations, donc la régénération, la modernisation. Et cette société, SNCF Réseau, a une société anonyme en filiale, donc qui sera second rang par rapport à la holding. C'est SNCF Gares et Connexions, comme le nom l'indique, gère les 3000 gares de l'ensemble du réseau. Et puis, nous avons Fret SNCF, Rail Logistique Europe, qui fait du transport de marchandises en France, en Europe, et bien plus, puisqu'on a même un train France-Chine, route de la soie, qui se développe. Donc ça, c'est le groupe unifié. C'est très important de le dire, parce qu'on est passé d'un monde public avec une tutelle à un monde de société anonyme, certes publique, mais avec un actionnaire. Donc avec des conseils d'administration qui fonctionnent comme des conseils d'administration dans n'importe quelle société anonyme. Et ça change aussi pas mal les mentalités et le fonctionnement. Dans ce contexte, le nouveau président, évidemment, arrive, il connaît très bien la SNCF, il a été le patron de Keolis pendant 7 ans, veut embarquer la SNCF vers une grande transformation pour développer le ferroviaire, bien évidemment. Mais également pour répondre à la nouvelle organisation du groupe SNCF. Donc c'est ça qui a poussé au fait de réfléchir comment la partie managériale peut embarquer cette transformation en lien direct avec le projet d'entreprise. Alors il faut savoir qu'il n'y avait pas de modèle de leadership à la SNCF. Ça, c'est important, grand groupe, mais il n'y avait pas de modèle de leadership. Il y avait des référentiels de compétences, des référentiels de gestes métiers, parce qu'on a beaucoup de métiers, hein, évidemment, mais pas du tout de modèle de leadership ou modèle managérial. Donc, c'est ça le contexte.
de ce travail-là? Est-ce que tu peux nous le préciser? Quel bénéfice vous apportez, en
C'était
fait?
la constitution de groupe, en fait, faire groupe.
C'est ça.
Je reviens au fait que nous ayons avant trois établissements publics. Les établissements publics n'ont aucun lien organique entre eux. Et donc, la partie intégration de coopération s'était symbolisée autour de deux personnes. Guillaume Pépi, qui était à la fois le président du groupe, et puis le président de réseau, d'SNCF Réseau, qui était sous forme d'EPIC à l'époque, qui se retrouvait également l'un, Guillaume Pépi, à la fois président du groupe et président d'un deuxième EPIC sur tout ce qui était mobilité, SNCF Mobilité. Et le président délégué qui était du groupe était en même temps le président de SNCF Réseau. Ça faisait, on va dire, cet ensemble faisait l'intégration. Pourquoi je parle d'intégration? Parce que le chemin de fer, et ça sera comme ça pendant très longtemps, c'est une histoire de contact entre le rail et la roue, c'est-à-dire entre l'infrastructure et le matériel roulant, donc les transporteurs. Et c'est impossible de faire un bon chemin de fer de qualité robuste s'il n'y a pas ce travail en commun. Et donc le fait de se retrouver avec des entreprises, finalement quelque part peut-être un peu plus nombreuses avec une holding, c'était très important de marquer le territoire global du groupe, notamment pour les cinq sociétés ferroviaires, d'un élément. Qui fasse un lien et qui montre bien l'intégration et le faire groupe. Ça, c'est constitutif du groupe et c'était très important. Et c'est ça qu'on attendait, c'était voilà, symboliser l'intégration, avoir un même langage et porter la transformation, parce que c'est très lié au projet d'entreprise. J'en parlerai peut-être plus tard, mais c'est deux facettes, en fait. Il y a un projet d'entreprise qui s'appelle Tous SNCF, il y a des valeurs d'entreprise, il y a des lignes de force, et le modèle de leadership était là pour valoriser et traduire en termes managériaux nos objectifs de stratégie et de positionnement. Quand
Ouais.
tu dis que le président a dit le modèle de management, c'est moi, c'est vrai que ça ne peut pas être ça. Je ferai une petite remarque. C'est quand même, comment dire, le président est exemplaire, doit être exemplaire. Il y a un jeu de l'exemplarité qui est très important. Et le modèle de leadership, non seulement il doit coller à la stratégie, mais il est aussi quelque part le reflet ou la représentation du style du président et de sa volonté de posture. Je pense que c'est important de le dire. En tout cas, c'est assez marqué pour, comment dire, Jean-Pierre Farandou, qui est lui-même un grand manager.
Comment est-ce que vous avez organisé le travail sur ce modèle, avec qui, pendant combien de temps? Enfin, est-ce que ça s'est décidé dans ton bureau avec deux interlocuteurs ou est-ce que c'est un travail plus participatif? Enfin, bref.
C'est forcément participatif parce que je ne suis pas constituée pour être seule. Et puis, si on veut embarquer tout un groupe, il vaut mieux être plusieurs. En plus de ça, moi, j'ai pris mon poste un mois après ou 3 semaines après fermeture de tout, premier confinement. Donc, je me serais bien embêtée toute seule. Non, j'ai fait appel à des amis par mail. En choisissant des cadres dirigeants ou des cadres supérieurs qui me semblaient être intéressés par la matière de, voilà, qu'est-ce que serait le management, le modèle de management, ou d'une manière générale, comment impulser une transformation dans ce domaine. J'ai envoyé un petit mail et dans l'heure, tout le monde m'a répondu. Donc ça, c'est quand même un signe d'une appétence, alors que la situation était très difficile et que tout le monde était vraiment sur le pont. Donc, on a, comment dire, créé, et donc, là, je ne me cache pas, mais c'était franchement en lien avec Alixio qui a animé et rythmé tout ça. C'était une période difficile, mais en même temps absolument passionnante. On a créé un groupe de concepteurs. En quelque sorte, de réflexion sur certains axes, qui étaient challengés déconstruit parfois par un groupe miroir. Là aussi, de cadres dirigeants, de cadres supérieurs, venant de toute la SNCF, hein, et même des filiales autres que ferroviaires, comme Geodis et Keolis. Et donc, ce travail a réuni, on va dire, une trentaine de personnes à qui on a joint, en support et là aussi en challenge, des personnes qui sont plutôt RH. Et le premier acte un peu fondateur, effectivement, c'était ce besoin de se retrouver autour d'un objet commun qui était le modèle de leadership. Une fois défini, je l'ai présenté au COMEX, ça a été validé en juillet de 2020, et ensuite on est passé au déploiement. D'abord une première cible, les quatre dirigeants du groupe, dont les membres des COMEX, par des ateliers d'appropriation. Et ce qui a été absolument remarquable, c'est que ce sont ceux qui ont travaillé pendant tous les ateliers du printemps, qui ont vu, sans que je leur demande, qui ont tenu à animer ces ateliers d'appropriation auprès de tous les quatre dirigeants. Et ensuite, les quatre dirigeants ont fait eux-mêmes des ateliers d'appropriation auprès des cadres supérieurs dans chacune des sociétés. Donc, c'est vraiment un modèle de leadership qui a été créé par des managers pour des managers.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce modèle, à quoi il ressemble?
Alors, c'est un modèle c'est un modèle qui repose sur quatre dimensions. Quatre dimensions, comprendre et transformer. Et chaque dimension, en fait, a des attendus très précis. Il y a 13 attendus précis. Donc, comprendre et transformer, fédérer, délivrer et se connaître. Donc ça, c'est les quatre grandes boîtes, on va dire, du modèle et qui correspond tout à fait à nos besoins pour porter justement la transformation du groupe à travers le projet d'entreprise. Projet d'entreprise, c'est évidemment une transformation, le développement du ferroviaire, mais porte aussi trois grandes valeurs, hein. Je les donne. C'est l'engagement, l'ouverture et l'efficacité. Et il y a également quatre grandes lignes de force. L'humain, très très important, ça c'est vraiment la marque de fabrique de Jean-Pierre Farandou. Les territoires, parce qu'on est complètement sur les territoires, hein, sur toute la France, avec des relations parfois compliquées, mais en tout cas extrêmement riches. Le numérique, parce que tout se numérise, hein, la production ferroviaire, les gestes métiers, et puis tout ce qui est transition écologique. Et donc, on retrouve, comment dire, ces grands thèmes, à la fois les lignes de force et les valeurs dans les qualités et les attendus. Par exemple, comprendre et transformer, je vous donne un attendu par exemple, impulser, incarner les transformations dans un monde incertain, comprendre le jeu concurrentiel, j'y vais très très vite, dans fédérer, vous avez incarné la coopération, les synergies dans l'intérêt général du groupe. Ça, c'est important parce que, comme je vous le disais, c'est un groupe avec de multiples filiales. C'est très important de viser l'intérêt général du groupe. Donc ça, c'est vraiment stratégique comme positionnement. Ensuite, pour donner corps et chair à ce modèle, hein, ça, c'est vraiment le cœur intangible du modèle de leadership, on a décrit des pratiques extrêmement concrètes, issues du terrain. On en a à peu près 80, qu'on a attribué bien sûr à chacune des qualités et des attendus, pour donner à voir, en fait, pour faire comprendre, pour illustrer ce que voulaient dire toutes ces phrases qui sont très courtes, très simples. Et voilà, c'est ça le modèle. Alors, il est représentatif pour faire groupe, oui, de toute la SA, de toutes les sociétés qui composent le groupe et de tous les métiers. Ça, c'était indispensable. C'est absolument indispensable parce que autrement, on ne fait pas groupe. C'est un langage commun. Et c'est, comment dire, très. Comment dire, c'est le lien qui nous unit véritablement. pour avoir la possibilité de développer tout ce qui est mobilité dans le groupe entre les sociétés.
Si tu avais trois conseils à donner à une équipe dirigeante qui souhaite revoir ou se doter d'un modèle de leadership, qu'est-ce que ça pourrait être?
Ben ça va peut-être synthétiser ce que je tentais d'expliquer auparavant. Alors d'abord, faire collaboratif et itératif. Ça me semble indispensable. Comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce que tu as fait ça tout seul dans ton bureau? Non. Embarquez, faites vraiment de la co-construction, créez votre propre groupe de réflexion, parce que la méthode est aussi importante que ce qu'il en sort, parce que la méthode, elle est apprenante et elle est constitutive à la fois du fond et de l'appropriation. Donc ça, c'est très important de faire, voilà, collaboratif et itératif. C'est-à-dire faut le travailler, défaire, refaire, etc., etc. Deuxième conseil, je le disais tout à l'heure, être très concret. En fait, utiliser des termes, des phrases courtes, simples, accessibles, pour que ça soit le plus universel possible, en quelque sorte. Faire concret, parce que c'est ce qu'il y a de plus appréhendable quelque part. Et c'est ce qu'il y a de plus partageable. Et puis, faire système. Alors, j'ai tendance à parler du système ferroviaire, mais en fait, il faut utiliser le modèle, il faut qu'il draine absolument tout ce que vous faites, tout ce que vous faites partout, vous ou vos collègues, quels que soient les métiers. Je parlais tout à l'heure des assessments, des recrutements, de la part variable. Tout ça doit être teinté du modèle de management qui doit se retrouver partout. Et ça doit être vraiment en résonance avec la stratégie, la raison d'être de l'entreprise, si vous en avez une, etc., etc. Voilà, donc faire système. Cohérence et système.
Un grand merci, Céline, pour l'ensemble de ce témoignage.